Dans cette 10e émission d'Allô la Bretagne, proposée par André Locussol, on va s'intéresser au vieillissement de la population. Nous allons parler donc des seniors en Bretagne, comparés à la France et à l'étranger, de leur nombre et des conditions dans lesquelles ils vivent. Une étude de l'INSEE a fait des projections jusqu'en 2050. Qu'en est-il ?
Il y a 5 ans, l'INSEE prévoyait qu'en 2050, près d'un Breton sur 3 serait un senior. À l'horizon 2050, disait l'INSEE, la Bretagne pourrait compter près de 4 millions d'habitants. La croissance annuelle de sa population le placerait alors dans les premiers rangs des régions métropolitaines. Les flux migratoires seraient l'unique moteur de la croissance démographique. Seul le département d'Ille-et-Vilaine conserverait un sol naturel positif. Dans ce contexte, le vieillissement de la population demeurerait une des caractéristiques majeures de la Bretagne. L'INSEE explique que depuis 2015, on a un nombre de décès en hausse de 14% en 10 ans, plus élevé que le nombre de naissances, à cause de l'arrivée des baby-boomers à des âges de forte mortalité. Mais la hausse de la population bretonne serait essentiellement portée par les seniors 65 ans ou plus. Selon le scénario de l'INSEE, entre 2013 et 2050, le nombre de seniors augmenterait de 537 000. Cela correspondrait à une hausse moyenne de 1,7% chaque année, davantage qu'en France. La forte croissance du nombre de seniors modifierait fortement la composition de la population bretonne, en sans doute. En 2013, l'âge moyen des Bretons est de 41,3 ans, supérieur à la moyenne métropolitaine, 40,2. En 2050, le vieillissement serait plus prononcé dans la région, plus 5 ans qu'au niveau France métropolitaine, 4,6 ans. Selon ce critère, la Bretagne se classerait juste après la Corse et la Normandie. La Bretagne compterait alors 1,4 seniors pour un jeune de moins de 20 ans. Les seniors deviendraient plus nombreux que les jeunes, 6 ans plus tôt qu'en France métropolitaine. Le poids des seniors dans la population bretonne augmenterait ainsi fortement de 19,5% en 2013 à 30% en 2050. Entre 2013 et 2050, l'espérance de vie des femmes passerait ainsi de 84 ans à 89 ans et celle des hommes de 77 ans à 85,4 ans. La Bretagne demeurerait attractive pour les seniors, avec en moyenne chaque année près de 2300 personnes venant des autres régions françaises. La part des personnes âgées de 75 ans ou plus augmenterait aussi fortement, passant de 10% en 2013 à 18% en 2050 selon le scénario de l'INSEE.
Mais depuis cette étude, le Covid-19 a brouillé les cartes et les chiffres ont quelque peu changé.
Exactement. Il semblerait que les différentes projections faites depuis montrent que la population rajeunit et de l'autre, qu'elle ne dépasserait pas les 3,6 à 3,7 millions en 2050 et non pas plus de 4 millions. Après une période où la fécondité des femmes françaises était la première dans l'Union européenne, en 2019, avec 1,86 enfants par femme, elle s'est tassée avec le Covid. Chute en janvier 2021 de 13% par rapport à 2020, puis elle est repartie à la hausse en 2022.
Comment nous situons-nous par rapport aux trois grands pays que sont le Japon, l'Allemagne et les États-Unis ?
En 2021, au Japon, le nombre de plus de 65 ans vient de battre un record avec 37 millions de personnes, soit près de 30% de la population japonaise. 16 millions d'hommes pour 20,6 millions de femmes. Leur espérance de vie chez les femmes, 88 ans, et chez les hommes, 82 ans. Et ce n'est pas terminé. D'ici 2040, l'Institut national de la population et de la sécurité sociale japonais prévoit que le pourcentage des seniors de 65 ans et plus atteindra plus du tiers de la population avec 35,3%. Les personnes âgées au Japon sont de plus en plus pauvres avec un minimum vieillesse inférieur à 600 euros par mois. D'où des seniors encore en emploi tardivement et dont le nombre dépasserait les 10 millions, soit 10 fois plus nombreux qu'en France. De même, aux États-Unis et en Allemagne, où la population est très vieillissante, on trouve des seniors de plus en plus vieux au travail. Certains ont même 90 ans aux États-Unis, ce qui est absolument incroyable, mais qui correspond vraiment à un gros problème, justement, de revenus. Ils sont victimes du système néolibéral, avec des retraites gérées par des fonds d'investissement spéculatifs, liés au rendement des marchés financiers, dont certains majors ont fait faillite. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le minimum retraite ne dépasse pas 400 $, avec la parité à égalité avec l'euro en 2022, contre récemment 960 € en Allemagne, mais avant il était beaucoup plus bas. En France, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, appelée aussi minimum vieillesse dans l'ancienne terminologie, est de 917 € par mois pour une personne seule et 1 423,31 € pour un couple au 1er janvier 2022, avec près de 500 000 allocataires qui le touchent. C'est un montant minimum accordé sous condition de ressources aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé au régime de retraite pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'existence à l'âge de la retraite. Ce n'est pas une pension de retraite, elle est financée par l'État et non par les cotisations sociales. C'est un minimum social au même titre que le RSA.
Mais comment vont vieillir tous ces seniors de plus en plus nombreux en Bretagne ?
En France, l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est la forme d'institution pour personnes âgées la plus répandue. Sur l'ensemble des 447 100 Bretons d'au moins 75 ans, plus d'un sur dix vit ainsi dans une maison de retraite, en raison de leur âge avancé ou de leur situation de dépendance. Ces personnes ont quitté leur domicile pour aller habiter dans une maison de retraite médicalisée, EHPAD ou non. Alors ça, justement, ce qui est intéressant à savoir, c'est pourquoi il y a de plus en plus de gens qui restent chez eux en Bretagne comparé à d'autres régions. Ben, c'est tout simplement parce que les Bretons sont ceux qui sont le plus nombreux à avoir acheté, à être propriétaires, à avoir acheté leur maison. Et ce qui fait que, comme ils ont un pied à terre, ils ne veulent bien évidemment pas le quitter. En 10 ans, la part des personnes âgées, 65 ans ou plus, dans la population bretonne est passée de 18,6% en 2007 à 21,6% en 2017. Parmi les enjeux soulevés par le vieillissement de la population figure celui du logement, on vient d'en parler, de l'aménagement du logement pour les personnes en perte d'autonomie à l'accessibilité aux équipements. Le vieillissement de la population est un paramètre d'ailleurs majeur des politiques publiques. Il existe aussi, comme je viens de le dire, la possibilité de finir ses vieux jours à son domicile en comptant sur l'aide et l'assistance de sa famille, des auxiliaires de vie dont nous parlerons ultérieurement, ou des infirmiers, infirmières qui viennent à domicile. Dans tous les territoires étudiés, au moins 3/4 des ménages âgés sont propriétaires de leur logement. C'est le sujet que je viens d'aborder et ce qui explique justement pourquoi on ne trouve pas plus de personnes dans les EHPAD ou dans les structures médicalisées. Hein, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les autres régions de France. Des formes intermédiaires existent, comme en Finlande, entre EHPAD et rester à son domicile. Et dans ces formes intermédiaires, en Finlande, il existe des studios, voire des deux pièces, loués aux personnes âgées dans le cadre de structures médicalisées et de services à la personne. Ils y vivent avec leurs meubles, leurs souvenirs et sont indépendants, libres d'aller et de venir. Ils bénéficient juste d'une structure médicalisée et de services à la personne, restauration, tâches domestiques, à condition qu'ils le veuillent.
À propos de la santé des personnes âgées, de leurs moyens de subsistance et de leur prise en charge, nous avons interviewé le service gériatrie du centre hospitalier Centre-Bretagne, bien placé pour répondre à nos questions.
Bonjour, donc je suis Delphine, infirmière au court séjour gériatrique du centre hospitalier Centre-Bretagne. J'ai aussi pour mission d'accueillir les personnes âgées en entrée directe au sein du service pour éviter le passage des personnes âgées aux urgences.
Et Lauriane, vous êtes également avec nous et vous êtes chargée de mission, filière gériatrique.
Moi, je m'occupe de tout ce qui est projet au sein de la filière gériatrique sur tout notre territoire de santé, donc du centre Bretagne. Donc, je suis en lien avec les EHPAD, les libéraux et donc le centre hospitalier, centre Bretagne, et toutes les structures en fait médico-sociales autour de la personne âgée pour développer les projets en ce sens.
Alors justement, on va parler de la situation de ces personnes âgées en Bretagne au niveau santé. Alors, quelle est cette situation et dans quel type de structure sont-elles accueillies ?
Alors, moi, je suis infirmière au centre hospitalier où nous sommes dotés d'un service de court séjour gériatrique qui accueille des patients de plus de 75 ans du territoire de santé numéro 8, l'Oudéa, Pontivy. Les personnes âgées sont accueillies, sont prises en charge pour une problématique qui peut être médicale, psychologique, sociale. Associée ou non à une maladie neurodégénérative, on entend par exemple comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Ces pathologies peuvent entraîner une dépendance qui est physique, psychique, et entraîner des difficultés à se mouvoir, des difficultés à réaliser les gestes de la vie quotidienne. Difficultés également à communiquer, à alerter. Donc, notre équipe médicale et soignante est très engagée à accueillir, à accompagner et répondre aux besoins des patients qui présentent ces fragilités et de leur famille.
Oui, Lauriane.
Voilà. Oui, outre aussi, effectivement, le court séjour gériatrique, on a au sein du centre hospitalier, on a une filière gériatrique assez conséquente qui est composée en fait de 3 EHPAD, du service que Delphine vient de nous présenter en détail, de services de soins infirmiers et d'aide à domicile qu'on appelle des SIAD. Voilà en tout cas pour une équipe mobile de gériatrie aussi, une équipe mobile de soins palliatifs. Donc ce sont tout un panel de services de la personne âgée. Après, où est-ce qu'elles sont accueillies ? Majoritairement, soit les personnes sont chez elles, à domicile, avec des aides à domicile, où on essaye de tout faire pour qu'elles restent à domicile avec tous les services qui vont leur faciliter la vie courante. Elles peuvent être aussi en EHPAD, anciennement appelée maison de retraite. Ça peut être des domiciles partagés, des petites unités de vie. Tout dépend en fait de leur situation physique et cognitive, comme le précisait Delphine.
Et quels sont vos liens avec les EHPAD en Bretagne, où environ 10% des plus de 65 ans sont hébergés ?
Donc moi, en tant qu'infirmière, j'accueille donc les personnes ayant besoin d'une hospitalisation au sein d'un service médicalisé. Les personnes peuvent intégrer le service suite à un passage par les urgences. Dans ce cas, les soignants des EHPAD nous transmettent un document écrit avec les problématiques médicales, la dépendance, les habitudes de vie. Par la suite, nous échangeons beaucoup, notamment par téléphone avec eux, et puis notamment avant la sortie, où un document de liaison leur est remis. La transmission des informations est importante pour une meilleure collaboration entre EHPAD et puis hôpital, et surtout dans l'intérêt du patient. Il y a une petite nouveauté au centre hospitalier. Nous accueillons donc des patients en admission directe au court séjour gériatrique. Pour des personnes nécessitant une hospitalisation, mais sans urgence médicale, la demande provient des médecins traitants ou alors des médecins coordinateurs d'EHPAD qui vont rentrer dans un premier temps en contact avec un gériatre qui peut donner ensuite son aval pour une admission. Donc, je suis infirmière de coordination des entrées directes ainsi que deux de mes collègues. Mon rôle va être d'anticiper au mieux l'accueil en échangeant avec les médecins traitants, avec les soignants des EHPAD et les partenaires aussi du domicile. Cette mission est nouvelle et l'intérêt est vraiment grand.
Et pour compléter, du coup, en lien avec les EHPAD, alors au centre hospitalier du Centre Bretagne, on essaie vraiment de construire un lien et d'entretenir un lien très fort avec la ville. On parle du fameux lien ville-hôpital ou ville-hôpital-ville. Donc, pour ça, on essaie d'aller au maximum vers les EHPAD pour que eux puissent aussi nous solliciter facilement. En ce sens, pour compléter les infirmières d'entrée directe qui jouent un rôle essentiel dans ce lien, nous avons une équipe mobile de gériatrie qui peut se déplacer en EHPAD sur demande du médecin traitant, qui a un rôle de conseil et d'évaluation autour de la personne âgée. Donc ça, c'est aussi assez important en termes de liens et de coopération. À terme, nous allons organiser des formations selon leurs besoins, ce qui permettra d'intervenir en EHPAD. Après, il y a plein de choses possibles et imaginables, comme analyser les pratiques entre les EHPAD et les services d'urgence pour pouvoir toujours s'améliorer et aller vers une coopération la plus fluide possible. Là, effectivement, les liens avec les EHPAD, on est surtout sur un volet. Les EHPAD ont un côté un peu médico-social et le centre hospitalier a un volet vraiment sanitaire. Donc, le but, c'est de faire coopérer une partie avec l'autre, tout en ayant la meilleure communication possible. Et ça, c'est un énorme enjeu parce qu'aujourd'hui, les systèmes d'information pour communiquer sont différents. Il peut y avoir de la perte d'information. Donc, d'où l'importance de bien connaître tous ces partenaires de ville, tout ce qui existe en ville et à l'hôpital, et que les acteurs se rencontrent, comprennent leurs contraintes pour mieux travailler ensemble.
Alors là, on a parlé des EHPAD. Quel est votre avis sur les soins apportés aux personnes âgées, sachant que tout dépend, bien sûr, de la gravité de leur état? Faut-il, quand cela est possible, qu'elle puisse rester chez elle?
À domicile, du coup, c'est le médecin traitant en collaboration avec les services de soins qui vont moduler la prise en charge en fonction des besoins en soins. À l'hôpital, c'est le médecin gériatre avec les autres spécialistes, les infirmières, aides-soignantes, assistantes sociales, qui travaillent main dans la main pour adapter les soins en fonction des patients et permettre un retour à domicile dans de bonnes conditions. Notre rôle est également au besoin d'avoir un rôle d'information sur les établissements accueillant les personnes âgées. Patients et familles peuvent être guidés dans leur démarche. Nous connaissons également les réseaux d'aide du domicile. Je vais parler de l'espace autonomie santé qui peut aussi accompagner à l'extérieur toute personne du territoire de santé. Ils peuvent être contactés par les acteurs de soins, les patients, les aidants. Les professionnels informent, orientent vers les ressources disponibles, tout en coordonnant l'action des différents professionnels. C'est plusieurs acteurs qui interviennent et qui peuvent être présents auprès des patients. L'espace autonomie santé, c'est vraiment un acteur pour le maintien à domicile. Ce qui est important, ça va être de communiquer avec la personne âgée, d'avoir son adhésion pour la mise en place d'aide à domicile ou alors pour une entrée dans un établissement accueillant les personnes âgées, car c'est d'abord son projet de vie.
Oui, j'imagine que c'est vraiment au cas par cas, en fait. C'est en fonction de la personne et de la pathologie.
Et de ses choix.
Oui. C'est une question de parcours de vie même, en fait. C'est, comment dire, parfois il y a une rupture lors d'une hospitalisation et ensuite on va dire, est-ce qu'il peut vraiment rester chez lui, la personne âgée, est-ce que ça va être possible, comment vont réagir les aidants, c'est vraiment une question de choix et de parcours qui est assez, souvent assez complexe. Parce qu'il y a des situations où le maintien à domicile n'est pas tenable, où l'aidant n'en peut plus, c'est la crise qui amène à l'hôpital, et puis ça va être l'occasion aussi de repenser les choses qui n'étaient peut-être pas forcément pensées ou qui n'étaient pas souhaitées. C'est vraiment les choix entre la possibilité de l'aidant et de la personne elle-même. Donc parfois, c'est vraiment compliqué. Là, je vais me baser un petit peu sur ce qui avait été dit lors des ateliers organisés par le Gérontopôle Breton à l'occasion d'une journée. Souvent, pour les entrées en EHPAD, la décision est prise pour les patients, et souvent, le choix était « je n'ai pas eu le choix ». Donc celles qui ont donné leur avis, c'est « je n'ai pas eu le choix, je ne peux pas rester chez moi ». Donc comment ouvrir les choix? Comment inviter à faire émerger les solutions par elles-mêmes, par les personnes, quand c'est possible? Des fois, ce n'est pas possible parce qu'il faut prendre en compte aussi la famille, les aidants. Donc d'où la nécessité souvent d'anticiper au plus tôt, même si c'est des questions souvent taboues, souvent très compliquées, qui font ressurgir en fait parfois un passif un peu compliqué. C'est vraiment une question de liberté individuelle et collective. C'est plutôt complexe et c'est pour ça que c'est toujours au cas par cas. Et donc, on est face plutôt à la question du parcours de vie et à la difficulté de faire des choix de vie pour d'autres ou de la difficulté d'exprimer ses propres choix. Mmh. Et donc, quand il y a des troubles cognitifs, souvent, les gériatres disent bien que parfois, pour exprimer le souhait d'un maintien à domicile, les personnes sont capables de mobiliser vraiment toutes les capacités cognitives qui leur restent pour faire des choix. Et à ce moment-là, bah, c'est vrai que les aidants, les assistants sociaux, l'espace autonomie santé avec les coordinatrices de parcours peuvent aider à ces choix, mais c'est vrai que bon, bah, la personne, qu'en est-il du libre choix de la personne, mais aussi de la préservation des aidants, qui est une question très importante de nos jours pour éviter leur épuisement. Aujourd'hui se développe de plus en plus une situation, enfin un dispositif un petit peu alternatif qui est ce qu'on appelle l'EHPAD à la maison ou l'EHPAD hors les murs. C'est quelque chose qui commence à émerger. Il y a des dispositifs expérimentaux. Il y en a un petit peu partout en France. Il y en a quelques-uns en Bretagne. Normalement, d'autres vont émerger. C'est comment proposer les services de l'EHPAD tout en faisant en sorte que la personne reste à la maison. Alors, ça induit une logistique très compliquée, surtout dans un secteur où les ressources humaines sont plutôt en crise. Il faut le dire, sur le secteur social notamment, c'est très compliqué, le secteur sanitaire aussi, de recruter des personnes. Mais l'EHPAD à la maison semble être une alternative, si elle est bien pensée, en accord avec la personne et ses choix de vie, pourquoi pas. Après, ça reste expérimental, donc à voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une vraie alternative ou est-ce que c'est plutôt une transition douce vers l'EHPAD quand le maintien ne sera plus possible? C'est une question qui reste un petit peu en suspens.
Merci à Delphine, infirmière au cours séjour gériatrique, et Lauriane, chargée de mission filière gériatrique du service gériatrie du centre hospitalier Centre-Bretagne. En conclusion, dans les années à venir, les seniors vieilliront-ils mieux que leurs parents?
D'ici à 2030, une personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus. En 2050, la population de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde aura doublé pour atteindre 2,1 milliards de personnes. Nos structures hospitalières, déjà en difficulté, ne pourront pas accueillir toutes ces personnes âgées. On aura donc recours à des solutions alternatives, supplétives, soucieuses de préserver le bien-être et la santé de nos anciens, de plus en plus âgés. La solution n'est donc-elle pas de permettre aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible, du fait qu'en Bretagne, plus de 80% d'entre elles sont propriétaires. Et sachant que l'hôpital n'est pas une fin, mais un moyen en dernier ressort quand la maladie ou l'état général l'exige. Par ailleurs, le recours aux auxiliaires de vie est traité de façon humoristique dans le film de François Ruffin, Debout les femmes, dans lequel deux députés de groupes politiques opposés, François Ruffin et Bruno Bonnel, ont coopéré pour montrer les difficultés et la précarité de ces femmes du lien. Elles sont 3 millions d'aides à domicile ou éducatrices à travailler dans ces métiers essentiels et dans l'ombre. Donc le film dénonce la vie compliquée et très dure de ces assistantes de vie, dont certaines ne bénéficient même pas de véritables statuts et gagnent moins que le SMIC. Thank you.
Thank you.